Les pérégrinations néo-rétro-culturelles, mon cher Camille, où est-ce qu'elles nous emmènent cette semaine?
Et cette semaine, on repart au Japon et on va reparler à nouveau musique. Et on va commencer en 1963. Palme d'or pour le Guépard, mais prix spécial du jury pour Seppuku de Kobayashi. Pendant que Johnny veut être l'idole des jeunes, Aznavour lui répond trop tard. Sur le petit écran, Thierry Lafronde. C'est loin, ça.
Oh putain.
Ah oui, disons, je pensais même que c'était plus vieux.
Donc aujourd'hui, on va parler de Yoko Kanno. Yoko Kanno, elle naît le 18 mars 1963 à Miyagi, au Japon. Donc c'est une enfant comme les autres. Hein. Donc, comme toutes les enfants de son âge, elle se passionne pour Claude Debussy et Maurice Ravel. Il y a un film sur Maurice Ravel bientôt d'ailleurs. À 4 ans, ses parents comprennent qu'elle a un peu la vocation quand elle apprend le piano toute seule, en autodidacte.
À 4 ans. À 4 ans, tu dis.
Ouais, ouais.
Mm-hmm.
Ça va.
Ça tranquille.
Pas trop
voilà,
mal.
Ouais, tranquille. Standard. Ouais.
Voilà, donc à 10 ans, elle a déjà participé à pas mal de concours et elle les a quasiment tous gagnés. Ça va, ça débute bien.
Oui.
Mais la jeune Yoko, elle rêve, elle, d'aventure. Du coup, elle va prendre sa valise et elle va partir étudier à Paris au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse. Il faut bien s'entretenir un petit peu. Mmh. En rentrant au Japon, elle va passer une licence de littérature à l'université Waseba et elle le fait en attendant de la transcription de musique pour ses amis sur son temps libre. 1987. Dans les salles, Full Metal Jacket ou Dirty Dancing, une chose est sûre, tu n'es pas joué. Dans les bacs, David et Jonathan pensent Bella Vita, Desireless, elle préfère Voyage Voyage. Bref, là-bas, comme dirait Goldman. Turbo débarque sur F6, réponse de TFA ou Shoya.
Ah oui, effectivement.
Ah ouais.
C'est vieux.
En 1987, Yoko, elle a 24 ans. Elle va décider de fonder un groupe qui s'appelle Tetsu 100%, où elle tient le rôle de compositrice et claviériste. Finalement, le succès ne sera pas très au rendez-vous, si bien que 2 ans plus tard, en 89, le groupe va se séparer. Voilà, ce qui était, ma foi, les compositions sont d'ailleurs très bien. Malgré tout, elle parvient à se faire remarquer par la société Koei, et elle va donc commencer à composer pour du jeu vidéo. Alors Koei, pas comme l'animateur.
Hein. Oui, je sais.
C'est ainsi comme ça qu'elle se retrouve à travailler sur les sagas Nobunaga Densetsu, Ishin no Arashi, ou encore Uncharted Waters, qui a rapport avec Uncharted de maintenant.
En décidément, même temps, rien travaille... à voir avec rien.
Non, rien. c'est tout coupé. Ça ressemble, mais c'est pas ça. En même temps, elle travaille avec une société de production qui s'appelle Unit Simply Red Do, qui lui permet de composer des documentaires pour les documentaires de la NHK. Donc la NHK, c'est la Nihon Telebi. Le cas, je sais plus ce que c'était, mais c'est la...
C'est l'équivalent de la BBC anglaise.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est une grosse chaîne informative au Japon. Ou des spots publicitaires. Notamment ceux de Coca-Cola, par exemple. Ça va. C'est pas... Ça commence pas trop mal. 1994. On va vite aujourd'hui. Un indien dans la ville. Bref, la cité de la peur. Dans les bacs, c'est le début de Green Day et Oasis. Sacré, full sentimental. Enfin bref, un samedi soir sur la terre avec Cabrel. À la télé, chez nous, c'est Spirou. Aux US, c'est Friends.
Oh.
C'est une belle année. En 94, Yoko, elle a 30 ans. Et on l'invite à composer, à travailler sur la composition des OST d'une saga d'animation qui fait son grand retour en OAV après plus de 10 ans d'absence, qui est Tojiku Yosai Macross. Ou Macross, simplement chez nous.
Ah.
Voilà, donc 4 OAV de science-fiction, comme on n'en fait plus, qui joue sur l'innovation et la richesse d'univers pour frapper là où ça fait mal et qui s'appelle Macross Plus. Voilà, pour la petite histoire, je les ai matés il n'y a pas longtemps. J'étais parti pour en regarder un, j'ai regardé les 4.
Ah oh, ok.
Tranquille.
Voilà. Ouais, vraiment, c'est incroyable. Tu t'arrêtes plus. La série est innovante et n'hésite pas à faire jouer les incrustations 3D, bien trop longtemps à l'avance d'ailleurs, hein, par rapport aux autres, et c'est quand même bien fait. Mais Yoko aussi n'hésite pas à briser ses racines classiques et son interprétation funk de ses années de jazz pour se replonger dans un No Man's Sky musical où finalement tout est possible. Les OST de Macross Plus sont vraiment exceptionnels par ailleurs. C'est aussi comme ça que... Elle va se mettre à créer même une petite langue pour l'occasion qu'elle fera chanter une certaine Gabriella Robin. Alors Gabriella Robin, c'est pareil, c'est un personnage à part entière. C'est un pseudonyme qui, en
aucun rapport avec
ne
Batman.
Correspond... Non.
Ok, toujours non, aucun
mais,
rapport.
Okay, mais je me perds avec tes chroniques. Hein.
Ouais, ouais. C'est un pseudonyme qui ne correspond à personne, officiellement. Officiellement, il n'y a absolument personne derrière ce pseudo. Même s'il est fort probable, du coup, que ce soit elle-même qui soit derrière la voix, puisqu'elle est présente essentiellement sur ses productions et sur celle de son mari, qui est également compositeur violoncelliste, qui s'appelle Hajime Mizoguchi. Elle n'a toutefois jamais voulu admettre que c'était elle. Voilà. Peut-être, depuis le début, c'est elle, peut-être, finalement, pas du tout.
C'est comme les emplois fictifs, on ne sait pas, on sait...
Voilà, okay. C'est ça, c'est mystère, tout le monde le pense, mais finalement, personne ne sait. Par ailleurs, Yoko se passionne pour les influences étrangères et elle va donc faire enregistrer l'OST à Israël. Voilà, c'est un truc qu'elle fera très souvent à partir de là. Donc, le succès est immédiat. Son génie lui ouvre les portes du monde de l'animation, ce qui va lui permettre de travailler seul ou accompagné sur Please Save Macross, l'excellent Macross 7, le légendaire Vision des Scaflones, Macross Dynamite 7 et le court-métrage d'animation expérimentale qui s'appelle Nose Mind Sound Insect ou encore Brain Powered. Alors d'ailleurs, Nose Mind, si vous êtes curieux, ça dure 16 minutes et ça se regarde comme si ça durait 2 minutes. C'est une folie. Voilà. N'hésitez pas à aller checker ça. Musicalement aussi, c'est pareil. Ça part même très loin, puisqu'au fur et à mesure de ses productions, Yoko, elle va s'éloigner de plus en plus de toutes ses origines et elle va même se diriger vers l'expérimental ou même vers la techno. Voilà. Complètement l'opposé de ce qu'elle faisait au début en classique. Quoi.
Oh bah faut tester. Hein.
Voilà. Elle va tester plein de trucs. En vrai, c'est pas dégueu. Les projets qui l'emmènent enregistrer dans les plus grandes villes du monde, voilà, mais qui lui font également rencontrer quelques personnalités un petit peu connues du secteur, comme Katsuhiro Otomo, c'est Akira, hein, ceux qui ne connaissent pas les deux.
Ça va.
Voilà, ou Yoshiyuki Tomino, donc Brain Power, et notamment Gundam.
Mm-hmm. Oh. Eh ben dis donc. Voilà. Ah ben le monde est petit, c'est ce qu'on voit avec ta chronique, c'est souvent le monde est petit, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'animation japonaise, enfin dans... À chaque fois, mais tu sais que lui, il est en contact avec lui, et c'est que les grands noms, bah, à la même époque, en fait, les grands noms se croisent.
Elle en profite pour lancer la carrière de quelques seiyuu comme Maya Sakamoto pour Escaflowne ou encore Akino Arai qui va interpréter la chanson Voices dans Macross Plus. Elle ira même jusqu'à composer certains de leurs albums. Elle a un petit peu de temps libre, donc quand elle a un peu de temps libre, elle écrit des chansons, c'est son truc. 1998, finalement.
Quand j'ai chacun fait ce qu'il veut. Hein.
Oui, finalement. Il faut sauver le soldat Ryan au cinéma. Vite, taxi. Dans les bacs, Céline nous demande s'il suffisait d'aimer et Mano, elle répond, mais qui est la belette? Il n'y a qu'une seule réponse, finalement. 1 et 2 et 3, 0. C'est la même année. Hein. À la télé, c'est la première de Game One et de Pokémon.
C'est vrai?
Ouais. Il n'y a pas que des bonnes choses en 98, mais il y a des bons trucs. En 98, Yoko, elle a 35 ans. Et il y a un certain Watanabe Shinichiro qui va lui proposer de travailler avec lui sur un tout nouveau projet avec des influences un peu plus jazz que d'habitude. Un genre que, finalement, à l'époque, elle admet assez méconnaître. Elle décide donc de se monter un petit groupe de jazz. Et avec ce groupe, elle va partir à New York. Avec un maximum d'informations sur la série en poche pour pouvoir composer le truc vraiment à fond. Le groupe, il s'appelle Seatbelt. Est-ce que vous commencez à remettre un petit peu ou pas du tout?
Pas du tout. Ceinture de sécurité, ça veut dire.
Ouais.
Mais je pense que c'est pas le nom français qui nous intéresse.
Mais c'est pas
ouais, exactement ça. Je sais pas, j'attends un peu plus parce que je sais pas si ça fait les connexions dans mon cerveau. Attends.
Ouais. On sortira l'œuvre le plus accompli de sa carrière à son goût, ainsi qu'un groupe qui est aussi bon en studio que sur la scène. Les OST composés vont enchanter la réalisation, pardon, qui va donner son maximum pour mettre en valeur dans son œuvre intemporelle Cowboy Bebop.
Ah, d'accord.
Voilà. Ah
bah voilà. Donc,
tout ce que vous entendez dans Cowboy Bebop, eh ben c'est elle.
Ah dingue.
Voilà, pas dégueu. Lors de la toute première chronique d'ailleurs que j'avais faite sur Kimagure Orange Road, je vous ai dit un truc, c'est que faire un animé bon, c'est une chose, mais si vous voulez qu'il reste dans la légende, eh ben il vous faut un OST de légende.
Ah oui.
Et s'il y a bien une saga qu'il a compris, ce truc-là, bah c'est Cowboy Bebop. Ah d'ailleurs, une nouvelle fois, Yoko, elle va faire des siennes et elle va demander au pied levé à Mayamane de chanter pour la chanson Blue, ce qui va faire complètement exploser la carrière de la chanteuse.
Ah, Blue d'Abuddy Dabuda ? Non, pas celle-ci. Ok, pardon, je sors.
Alors, pas celle-ci. Mais d'ailleurs, pour l'info, la chanson Blue, elle a été reprise il y a même pas un mois par Honda pour faire un spot anniversaire.
Ok.
Très beau spot d'ailleurs.
Ah, ok.
Voilà, très chouette. Elle s'arrête pas là, puisque un succès ne suffisant pas, elle compose un album avec Tsuneo Imaori, qui est le compositeur du tout aussi intemporel Trigun.
Trigun, j'ai beaucoup aimé.
J'adore Trigun. Pareil, les OST, ils sont fous là-dessus.
Donc, comme Baby Bub, j'ai pas encore tout vu en entier parce que je sais pas pourquoi. Voilà. Mais par contre, Trigun,
voilà.
Une folie.
L'année suivante, alors qu'elle s'était jusque-là occupée, associée à la saga Macross, elle compose les OST du rival direct de cette saga, à savoir pour l'animé Turn Gundam. Voilà, donc là-dessus, c'était elle aussi. L'année 2000 passée, elle se raccroche à un projet qui est finalement assez unique dans son approche et sa critique de la société, et qui s'appelle Earth Girl Arjuna. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour Gabriella Roplin de faire son grand retour avec une apparition au chant. Qui est exceptionnel d'ailleurs, Earthgirl Arjuna. Les partis pris politiques est très fort dessus. Vraiment, contrairement à d'habitude où les Japonais sont très neutres sur plein de choses, pour le coup là-dedans c'est complètement le contraire. C'est même assez étonnant que ça passe sans aucun souci. Mais c'est très très bien. Voilà. Donc, si vous êtes curieux, je vous le conseille. En 2003, elle s'attaque cette fois à l'anime Wolf Friends avec un nouveau succès retentissant, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs comme anime, et qui est très populaire. l'année suivante, parce qu'avoir travaillé sur Macross, Gundam et Cowboy Bebop, ça va pas suffire, elle compose les OST de Ghost in the Shell Stand Alone.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, ok, oui, donc...
tu commences à compter le nombre de sagas de l'époque qu'elle a faites, ça commence à faire un petit peu beaucoup, il manque plus grand chose à part Evangelion, quoi. L'occasion parfaite, d'ailleurs, pour renouer avec l'innovation sonore qui avait fait sa marque de fabrique. En 2005, c'est cette fois la saga Sousen no Aquarion qui a le droit à ses OST, une saga de mecha de bonne facture, très populaire au Japon, mais presque inconnue chez nous, malgré le fait que ce soit Pathé qui a acheté les droits de l'édition physique.
Ok.
Voilà, donc Pathé, la grande chaîne de cinéma, possède les droits, possède toujours les droits d'ailleurs, mais c'est pour autant qu'ils les vendent, quoi.
Oui, des fois, ça c'est d'ailleurs honteux dans plein de domaines, les gars, ils ont les droits, ils vont jamais rien en faire, mais du coup, personne d'autre peut en faire autre chose.
Bah, ils ont un coffret DVD à 50 balles pour 24 épisodes.
Voilà. Écoute, hein, si ça leur suffit. Hein.
Et ben super.
Il en faut peu. Hein. C'est quoi ta perspective d'évolution? Bah, c'est ce coffret à 50 balles. Écoute, hein, ça suffit, les gens achètent. Pourquoi se faire
bah,
chier?
Les gens les achètent pas, je crois qu'on les trouve toujours en neuf, mais c'est pas grave. Hein.
Ou alors ils ont un stock immense et ouais, t'imagines même
oui,
pas.
Ils ont fait vraiment beaucoup, c'est possible aussi. Hein. En 2007, la saga Macross revient, encore une fois, elle reprend du service avec l'OAV Macross Frontières des Cultures Éditions. Et elle est évidemment de la partie, l'occasion parfaite pour renouer finalement avec des basiques extrêmement orchestraux. Voilà. On trouve vraiment ce qui fait un peu la marque du Space Opera.
Ouais.
En mai 2007 signe aussi l'arrivée d'une nouvelle saga à succès signée par les studios Bones, Darker Than Black, dont elle va également signer les OST. Je sais pas si. Chez nous, ça. C'est très de niche Darker Than Black, mais au Japon ça avait vraiment bien fonctionné à l'époque. L'année suivante, la saga Macross Frontières est là, avec un nouvel animé, évidemment, elle aussi. Macross Frontières qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Là encore, essentiellement au Japon malheureusement, mais je vous les conseille aussi.
De toute façon, le nombre de choses qui passent pas la barrière ou qui la passent très faiblement...
Les titres qui fonctionnent au Japon et les titres qui fonctionnent chez nous sont pas les mêmes. Faut savoir qu'au Japon, par exemple, Gundam ou Macross, c'est l'équivalent d'un Star Wars.
C'est vrai.
En 2012, elle va signer l'adaptation du musical du manga Sakamichi no Apollon, qui s'appelle chez nous Kings on the Slope, qui est un excellent titre sur le jazz des années 60, aussi touchant dans son adaptation animée que dans son titre original ou dans son adaptation film live. Les trois sont extrêmement bien, pour le coup, donc je conseille les trois. Yoko retrouve des vibes jazz et parvient sans peine à mettre une immense quantité d'émotions dans sa musique. Je conseille fortement, vraiment, si vous les avez jamais vus, c'est hyper intéressant. En 2014, elle retrouve Watanabe Shinichiro pour travailler sur son nouveau titre, Terror in Resonance, un animé court et unique qui traite de la question du terrorisme.
Voilà. D'accord.
Qui est d'ailleurs resté très longtemps chez Netflix. Voilà, très intéressant. Une claque sous tous les aspects, autant pour la musique qui vient amplifier tout ça à l'extrême.
Ça peut être cool, quoi. Des fois, il y a des thématiques où tu fais « Oula, il y a bien un manga sur Hitler. Hein. »
Oui.
Donc...
Oui.
Planète
Evil en parle aussi également, mais c'est des titres où le point de vue est risqué entre guillemets, ça pourrait être très glissant, mais comme c'est très bien géré, du coup il n'y a pas de souci.
Bah en fait c'est voilà. Ça, c'est que tu dis ah la thématique, aïe, et finalement bah ça revient au truc de on peut parler de tout quoi, c'est pas parce que c'est un truc de en lisant le titre tu fais oulala sujet glissant. Bah, si c'est bien fait, il n'y a aucun sujet glissant là, sur la finalité, si c'est bien traité. Mais c'est vrai que c'est risqué voilà. De se dire « Allez, j'y vais, je fais ça ».
Voilà, mais pour le coup, Terror et une résonance, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est extrêmement bien. Mayuko est également dans son second projet à succès de cette année-là, héritier spirituel de Cowboy Bebop, qui s'appelle Space Dandy. J'ai écouté un milliard de fois, d'ailleurs, sans jamais regarder l'animé, c'est terrible. Du coup, oui, pour ceux qui ne savaient pas, il y a un héritier spirituel. À Bebop. Qui est beaucoup plus funky d'ailleurs.
Ah ok, parce qu'on connaît les héritiers.
Alors, je le savais, mais j'ai jamais vu.
Bah, peut-être ouais. À regarder si c'est bien.
Parce qu'en plus de composer des OST d'animé, elle compose également pour beaucoup de chanteuses, en plus de celles dont elle est à l'origine de la carrière, ainsi que pour certains projets de son mari, mais également pour sa carrière solo, où elle est très productive, que ce soit seule ou accompagnée. Donc finalement, elle va signer 3 albums solo à 100%, mais en plus, elle va signer en collaboration plus de 20 albums. Et c'est sans parler des arrangements et autres apparitions qu'elle va faire sur des centaines d'albums ou de sagas, que ce soit dans le milieu de l'animation, celui de la télé ou celui du jeu vidéo. Voilà, par exemple, celle qui compose les OST du jeu Monster Universe qui est sorti l'année dernière. Voilà, en tout, il y en a à peu près plus de 300.
Bah, elle s'ennuie pas trop liste. Dans sa vie, en fait.
Non, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de temps libre.
Mais les artistes,
ou alors
hein.
Qu'elle l'occupe beaucoup.
Les artistes, ils s'ennuient pas trop. Hein.
En 2019, elle compose même Ray of Frater pour l'intronisation du nouvel empereur Naruhito. Voilà, donc en gros, c'est l'empereur c'est ce qui rythme la vie japonaise à 100%. Genre, quand l'empereur change, on change le calendrier, on change le nom de l'ère.
Quand il va pisser, tout le monde va pisser.
C'est un peu ça. Et genre, la personne qui a composé le changement d'époque, c'est elle.
Ah ok.
Voilà, donc pour un compositeur, en fait, tu peux pas faire plus. Actuellement, officiellement, au Japon.
On est dans l'ère quoi, là, d'ailleurs
comment il s'appelle, l'ère actuelle? J'ai un doute.
Je cherche.
Aujourd'hui, Yoko Kanno, elle a 60 ans. Donc, compositrice de génie, elle a su trouver le juste milieu entre la tradition et le traditionnel pardon, et l'innovation, afin de laisser à jamais une trace dans l'histoire non seulement de la musique, mais aussi de l'animation. Puisqu'accompagner les images, elle les renforce et les amplifie jusqu'à toucher profondément celui qui les écoute avec attention. Et c'est en ça qu'elle mérite vraiment une place à part parmi tous les compositeurs. Mais on le sait déjà, si nous, on regarde dans le passé, elle, elle regarde déjà dans l'avenir.
Wow. Oh, c'est beau ça. C'est poétique, hein, j'ai envie de dire.
Mais il fallait. Bah, pour Yoko Kanno, on était obligé un petit peu d'envoyer.
Bah, c'est beau.
Voilà, merci. J'avais un doute.
Parfait, merci beaucoup.
Et ben, y a pas de
mon
quoi.
Cher Camille, pour toujours cette découverte ou redécouverte pour certains, ou nous faire découvrir des personnalités tellement connues qu'on ne les connaît pas.